Cours de philosophie du vivant par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 25 avril 96.
Il y a deux questions. Ayant découvert l'âme comme principe indivisible et face à la diversité réelle des opérations vitales, on doit poser les facultés propres à chacune. Ces facultés sont quelque chose de l'âme. Elles en émanent. Mais comment peut-on distinguer dans l'âme indivisible des facultés diverses? Pouvez-vous préciser le lien de causalité entre l'âme et ses facultés? C'est un problème très délicat. On parle d'émanation. C'est le terme que prend Thomas d'Aquin. Émaner. Pour faire comprendre qu'il s'agit d'une causalité naturelle, un lien naturel entre l'âme et ses facultés. C'est bien de poser le problème. Les facultés sont comme des propriété de l'âme indivisible au niveau de la vie. Elle est source de vie. Tout principe est premier et donc indivisible comme principe. Mais l'indivisibilité est différente au niveau de l'être et au niveau de la vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Au niveau de l'être, l'indivisibilité est absolue. Au niveau de la vie, l'indivisibilité, c'est un principe d'unité dans la diversité. Donc vous voyez, ce n'est plus la même indivisibilité. C'est du reste là l'analogie. L'analogie apparaît, comme nous le verrons du reste, dès la connaissance sensible. Lui-même supprime le positivisme par la constatation que la vie n'est pas dialectique. Donc elle est analogique. Dans l'unité, il y a la diversité. Il y a la diversité dans l'unité. Alors vous voyez le point de vue. L'indivisibilité du principe vital n'est pas la même que l'indivisibilité du principe au niveau de l'être. Au niveau de l'être, l'indivisibilité de la substance est d'une certaine manière plus absolue que l'indivisibilité du vivant. Mais même au niveau de la vie, même au niveau de l'être, vous reconnaissez que la substance indivisible est source de toutes les autres déterminations. D'une façon immédiate ou d'une façon médiate. Elle est source d'égalité. C'est pas impossible, puisqu'on passe d'un niveau de l'être à un autre niveau de l'être. Au niveau principe, il est indivisible. Au niveau accident, le principe peut être source de la diversité d'accidents. Et l'âme, source de vie, peut-être principe de la diversité des puissances vitales. L'âme indivisible peut-être source de son information du corps, source de toute la vie sensible, source de la vie spirituelle. Vous voyez que c'est pas contradictoire. c'est tout. Et si vous saisissez ce que c'est qu'un principe, vous voyez que c'est possible. Mais c'est pas contradictoire, c'est parce que c'est pas au même niveau. Donc c'est possible. Et que si vous réfléchissez, vous voyez, vous constatez ça, que, en effet, vous avez diverses opérations durant la journée. Vous êtes réveillé ce matin, vous avez prié, au moins vous avez essayé de prier, vous avez prié, vous avez loué le Seigneur avec une voix plus ou moins belle, vous avez loué le Seigneur, puis vous avez pris votre petit, vous avez suivi un cours, éveillé l'intelligence, oui. Puis, grâce à Dieu, vous avez pris votre petit déjeuner. La vie végétative, à ce moment-là, a eu son bol d'eau chaude, ou de café chaud, de lait chaud, ou de miel chaud, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, elle a eu sa nourriture. Puis après, vous avez recommencé à travailler, à ordonner vos cellules. Et ordonner celle du voisin, et ordonner le travail, la prudence. Puis vous recommencez à travailler, puis vous recommencez à prier. C'est toujours vous. Votre je suis se balade dans différents endroits, mais c'est toujours vous. Il y a diversité et unité. Ça, vous êtes bien obligé de le constater. Ne cherchez pas à ramener la métaphysique à la logique. Mais déjà, au point de vue logique, l'universel est divers. Il est indivisible, il est divers. Générique, spécifique, propre, accidentel. Les cinq prédicables. Et c'est toujours l'universel. Il n'y a que Dieu qui est absolument indivisible, omnino simplex. Il n'y a que Dieu. En dehors de Dieu, l'est se donne dans la multiplicité, la diversité. L'être se donne comme ça, et le vivant se donne dans la complexité. Et plus il est vivant, plus il est complexe. Et plus, en même temps, il a une soif d'indivisibilité et d'unité. Et l'indivisibilité du ver de terre, vous le coupez, il y en a deux. Tous les deux se continuent de remuer. Tandis que vous coupez un moustique en deux, il y a une aile qui bogue exastant, et puis l'autre aile. Et l'homme encore plus, coupez-le en deux. Ça ne fait pas deux hommes. Mais au point de départ, la première cellule peut se diviser. Et faire des jumeaux. Des jumeaux ont été un instant. D'extraordinaire. Et c'est pour ça que si c'est dès le premier instant l'âme, pas commode pour les jumeaux. Hein. Tandis que si c'est, il y a eu au moins deux instants, l'instant de l'unité biologique et l'instant de la diversité de l'âme. C'est suffisant pour ce qu'on appelle le premier conception. Pour moi, c'est suffisant. Et c'est très difficile de pousser jusqu'au bout l'indivisibilité. Bon, je dis ça en passant, parce que c'est intéressant quand même. Il faut réfléchir sur ces problèmes-là, autrement on vous coince. Donc il faut y réfléchir. Donc l'âme est indivisible et elle est source à travers le corps. passer du tiesti au pos. Ah, comment existe-t-elle? Comment vit-elle? Elle vit à travers ses puissances. Vous voyez, c'est vraiment la différence entre le point de vue du tiesti, vous savez, c'est le principe comme principe indivisible, et le pos, la manière dont ce principe existe. Il existe comme source immanente de diversité. C'est le comment. La propriété est toujours saisie au niveau du comment. Et toute propriété est saisie au niveau du comment. Parce que le principe saisi comme indivisible, il est saisi dans son indivisibilité. Premier, c'est tout. Pour saisir que quelque chose émane de lui, il faut voir la manière dont il existe. Oui, c'est un autre regard. Vous passez de cette fine pointe de l'intelligibilité à la manière dont il existe. C'est pour ça que c'est si important. Le tiesti et le pos, vous voyez. Je reviens toujours là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui a été perdu dans la scolastique. Ça a été ma première interrogation sur la scolastique, quand j'ai vu combien Aristote distinguait le tiesti et le pos. Le tiesti conduit à la crudité, conduit au principe. Donc, c'est l'indivisible. Ce qui est premier. Les deux percées. Le percé quéditatif, qui est le percé au niveau de la forme. Et le principe, qui est le percé au niveau de l'être, de la vie, de l'esprit. Et le pos, le comment, qui nous fait saisir la manière d'être. Vous avez donc l'appréhension et le jugement. Toujours les deux. Grâce au jugement, je saisis la manière d'être. Grâce à l'appréhension, je saisis le tiesti. Et les deux sont toujours liés l'un à l'autre. Il ne faut surtout pas les séparer, mais il faut les distinguer. L'erreur du positivisme, c'est de supprimer le tiesti et de ne garder que le pos. Auguste Comte le dit béatement. La science ne cherche que le comment. La science ne cherche pas le tiesti. Et ça, c'est le grand-père, Auguste Comte, du positivisme. Et il dit ça avec naïveté. Ce sont les enfants qui cherchent le tiesti. Les personnes adultes savent bien que le tiesti, on ne le saisit pas. Et on se contente du comment. C'est important de voir ça. Et c'est intéressant de voir ce point de vue. Vous voyez, grâce au pos, la manière d'exister va permettre la diversité dans l'unité. Je crois que c'est ça que nous devons essayer de comprendre tout le temps. Les facultés, les puissances sont saisies au niveau du comment. Et non pas du tout au niveau de l'âme indivisible comme source du tiesti. Mais comprenez bien que dans le jugement le plus simple, ceci est. Mon intelligence cherche à travailler travers ce qui est sa manière d'exister, l'être. L'âme et les facultés, c'est une causalité formelle, émanation. Ça provient directement de l'âme, comme une propriété, donc c'est du côté vraiment de la forme. Il y a un lien de perséité formelle. Alors, deuxièmement, pourquoi parmi toutes les opérations vitales du vivant, la procréation est la seule avec un autre vivant de sens opposé. Oui, c'est l'individu et l'espèce. La seule opération qui est au niveau de l'espèce, c'est la procréation. La nutrition, c'est pas au niveau de l'espèce. Quand vous vous nourrissez pas au nom de l'espèce. Vous vous nourrissez au nom de l'individu. Et vous reconnaissez qu'en vous, l'individu et l'espèce, c'est pas la même chose. Si l'ange devait se nourrir, il se nourrirait au niveau de l'espèce. Mais justement, il ne doit pas se nourrir parce que en lui, la distinction espèce et individu n'existe pas. C'est de l'angélisme de confondre l'individu et l'espèce. C'est de l'angélisme. C'est oublier la manière d'exister de l'homme. La procréation fait qu'on est source d'un nouvel être. Donc il y a une causalité qui est radicale. Et pour cette causalité radicale, de fait, c'est pas une nécessité absolue, mais de fait, il faut qu'il y ait dans la même espèce deux individus complémentaires par rapport à la procréation, qui permettent une opération qui dépasse l'individu. On ne procrée pas au nom de l'individu. Parce qu'autrement, la mère dirait « c'est moi qui procrée » et le père dirait « c'est moi qui procrée ». Non, c'est tous les deux. Au nom de l'espèce, l'unité se fait. Et l'unité est dans l'espèce. Et c'est pour ça que le troisième, vous voyez, est distinct des deux premiers, à cause de l'espèce. Il y a des similitudes avec les deux, mais il n'est pas le même. Il n'a pas le même fil biologique. Ils sont trois. Trois vivants. C'est très curieux, ce chiffre 3, oui, qui apparaît. Alors que dans la nutrition, c'est le chiffre 2. Hein. C'est le poulet rôti. Plus ou moins rôti. Que vous mangez. Et dont vous vous nourrissez. Et non, en réalité, ça se termine dans l'unité, ça commence l'unité, ça se termine dans l'unité. C'est l'individu qui est entièrement responsable de l'espèce, quand il se nourrit. Parce que vous n'avez pas à dire, le lundi, c'est l'individu qui se nourrit, le mardi, c'est l'espèce qui se nourrit, et ainsi de suite. Non, 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 c'est toujours l'individu. Oui, alors, ça c'est la diversité de la vie. Hein. Et que l'opération vitale de la procréation est une opération qui relève de l'individu lié à l'espèce. C'est au nom de l'espèce qu'on procrée, et pas au nom de l'individu. Ce qui est complètement oublié dans un monde individualiste comme le nôtre. Hein. Si on avait ce sens-là, on comprendrait que ni le père ni la mère ne sont responsables, ni le père et la mère ne possèdent le troisième. Ils sont responsables au nom de l'espèce, mais ils ne possèdent pas l'espèce. Et le troisième né est conçu au nom de l'espèce. C'est ce que les anciens avaient saisi et que les modernes ne saisissent plus. Parce qu'on est dans un âge tellement individualiste que la nature disparaît. Comment voulez-vous comprendre la procréation si on ne voit plus la nature? Or, depuis Occam, la nature disparaît. Vous ne voyez plus l'espèce. Mais il y a là quelque chose de très important à saisir. Parce que c'est le point de vue, ce que je vous disais tout à l'heure, le point de vue de la finalité de la vie végétative. Elle est au niveau de l'espèce et pas de l'individu. C'est l'espèce qui demande de durer. Et l'individu est corruptible, mais pas l'espèce. L'espèce comme telle demande de durer. Elle a quelque chose qui est au-delà du temps, d'où la procréation. Et la création de l'âme, alors évidemment quand je parle de procréation, vous comprenez bien que tant que je n'ai pas découvert l'existence de Dieu, je ne peux pas parler de la création de l'âme. Donc, quand je cherche ce qu'est la personne humaine, dans ce premier moment de l'éthique fondamentale, je vois les limites de cette éthique fondamentale dès que je parle de la procréation. Parce que je ne peux pas expliquer ce que représente cette opération si importante pour l'homme qu'est la procréation. Je peux simplement dire, je constate le fait. Mais d'où vient l'âme, je ne sais pas. Je ne découvrirai l'origine de l'âme qu'à partir de l'existence de Dieu. Autrement, je ne peux pas. Oui. Alors, il y a une tentation, dès qu'on ne voit plus Dieu, une tentation de dire que l'homme est maître de la situation, même pour la procréation. Il la domine. Il en est la source totale. Et donc, je nierai à ce moment-là la complémentarité qui montre bien qu'étant deux responsables, il faut bien qu'il y en ait un qui est au-delà des deux. Et on ramènera la responsabilité totale de la procréation à l'homme et à la femme. D'où possibilité dès tant que l'embryon n'est pas suffisamment développé de dire l'homme et la femme sont responsables et peuvent le supprimer. Vous voyez, c'est la tentation, je dis bien. Ils n'ont pas le droit de le faire parce qu'ils ignorent. On n'a jamais de droit dans l'ignorance. L'ignorance ne donne aucun droit. Quand certains ont affirmé l'existence de l'âme et de l'âme humaine et l'existence de Dieu, on peut dire « je ne l'ai pas découvert, je l'ignore ». Mais l'ignorance ne vous donne pas des droits. Vous voyez, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que l'ignorance donne des droits. Le primat de la négation. Et la négation vous donne des droits. Alors que la négation ne vous donne pas de droits. Si la négation est première, elle vous donne des droits. Alors il faut bien comprendre ce problème. C'est que la procréation au niveau personne humaine au niveau fondamental de l'éthique, commandé par l'amour d'amitié, me fait comprendre que l'homme et la femme, l'époux et l'épouse, sont source d'un être nouveau. Sont-ils source d'une manière parfaite de cet être nouveau ? Point d'interrogation. Je me pose la question. Est-ce que l'homme engendre l'homme de lui-même, par lui-même, sans l'intervention d'une autre causalité ? Les anciens disaient l'homme engendre l'homme avec le soleil. Alors c'était le soleil qui montrait qu'il y avait un troisième. Ça, c'est la grande affirmation ancienne, qui est très jolie du reste. Que ça montre qu'on n'est pas entièrement maître. La fécondité implique en elle-même des quantités de choses qui échappent à l'homme. L'homme sait bien qu'il n'est pas le maître absolu de la fécondité. Alors il expliquera des tas de possibilités de la matière, des ratés de la matière, des choses comme ça. Mais il ne l'explique pas, en définitive. Donc il y a un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation ne pourra être résolu que lorsqu'on aura découvert l'existence de Dieu par l'âme humaine, par l'intelligence humaine. Ayant découvert l'existence de Dieu par l'âme humaine, on comprendra qu'il y a dans l'homme quelque chose qui dépasse la procréation. Son esprit. Et son esprit qui découvre l'existence de Dieu. Parce que tant que je n'ai pas découvert l'existence de Dieu, mon esprit n'a pas découvert son autonomie radicale. Ce n'est qu'au moment où je découvre l'existence de Dieu que mon intelligence, comme intelligence, découvre son autonomie radicale. Ça, nous aurons l'occasion d'y revenir là-dessus, parce que c'est très important. Donc, vous voyez, au point de vue philosophie du vivant, je suis en face de l'opération de procréation comme une opération tout à fait particulière, sui generis, où l'homme ou la femme ne peuvent pas par eux-mêmes commander la plénitude de cette opération, c'est-à-dire son effet propre, la procréation. Ils peuvent préciser les méthodes d'infécondité, les moments d'infécondité. Même, ils ne peuvent pas assurer une fécondité selon leur bon plaisir. Et au fond, c'est ce que l'homme voudrait, cela. Dominer de plus en plus cette opération vitale, la plus vitale, puisque, de fait, elle relève de l'espèce et elle implique le concours de l'autre dans une complémentarité qui permet la procréation. Cette opération, plus parfaite que les autres, échappe en partie au bon plaisir, au choix de l'homme et de la femme. Il y a quelque chose qui les dépasse. Et ceci est très net. Quand vous êtes en face de couples où il n'y a pas la fécondité, ils sont obligés de le reconnaître. L'individu comme individu est parfait. Et quelquefois, on le dit, et c'est vrai, je crois que ces choses-là existent beaucoup plus dans des cultures très avancées. Plus la culture est avancée, plus il y a des manques de fécondité. et quand la culture n'est pas très avancée, qu'on reste encore très proche, vous voyez, du terroir, au fond, la fécondité est beaucoup plus fréquente. C'est très curieux, c'est comme si, vous voyez, toute la vitalité partait du côté de l'intelligence ou du côté du spirituel, et qu'alors, par le fait même, le point de vue de la vie, de la fécondité selon la chair et le sang, la fécondité au niveau de la vie végétative, connaissait une infirmité. On ne peut pas affirmer ça d'une façon absolue, hein, mais on constate une constatation. C'est très mystérieux, ça reste mystérieux. Et le philosophe doit regarder ce mystère. Et je dirais, en tant que philosophe, il doit essayer de comprendre la manière diverse dont la fécondité se fait à travers tous les vivants. Et ça, c'est très intéressant pour le philosophe. Que la fécondité a des modalités très différentes et que la fécondité apparaît comme toujours une certaine gloire du vivant individuel. Et les anciens disaient que la fécondité permettait de comprendre l'éternité de l'espèce, donc la grande victoire sur la mort. Et c'est vrai que la fécondité est la victoire sur la mort, puisque ça permet à un autre être qui vient de moi de continuer ce que moi je ne peux pas continuer. Étonnante, et qui montre comment il y a dans la fécondité quelque chose qui échappe à l'individu et qui relève de l'espèce et qui relève en définitive d'une sagesse supérieure à l'homme, celui qui a créé. La fécondité est un appel très fort à regarder le Créateur. Voyez, faites l'analogie, hein, comprenez bien, en soulignant analogie. Parce que je crois que c'est très important. Au point de vue fécondité spirituelle, il y a une fécondité spirituelle. Du reste, je dis tout à l'heure, c'est intéressant de regarder toutes les modalités de fécondité. Et c'est vrai, c'est très très curieux de voir la fécondité chez les poissons, par exemple. Il y a des lieux où se fait la fécondité. Et je vois, ça exige un très grand parcours. Bon. C'est vraiment quelque chose qui reste pour le philosophe un très grand mystère. C'est quelque chose de très grand. Dieu a voulu, alors là je le dis en tant que théologien, Dieu a voulu l'homme et la femme pour communiquer la fécondité. Il a voulu que cette fécondité de l'homme et de la femme, qui est la fécondité première analoguée, autour de cela, toutes d'autres modalités. C'est la fécondité dans la vie des plantes, dans la vie des arbres. C'est extraordinaire de voir que c'est dans la fécondité qu'il y a tout un mystère de gloire, d'épanouissement dernier, quelque chose de tout à fait spécial, qui implique qu'il y a des quantités de points individuels qui sont comme perdus. Tout n'est pas fécondé. Tout n'aboutit pas à son terme. Pour mieux manifester la splendeur de la fécondité, pour mieux peut manifester qu'il y a là comme quelque chose qui, dans l'ordre de la vie végétative, est un sommet. Alors, quand vous regardez la fécondité de l'artiste, l'aspiration, il y a une vraie fécondité intellectuelle, spirituelle. Il y a une fécondité au niveau intellectuel, pas seulement chez l'artiste, mais dans la connaissance intellectuelle. Et puis, il y a une fécondité divine. Oui, ça, c'est à mettre entre parenthèses. Mais c'est vrai. Vous retrouvez le thème de la fécondité à tous les niveaux. Jusqu'à la croix. Où la mort est nécessaire pour la fécondité. Et on retrouve ça chez certains animaux. Au moment de la fécondité, ils meurent. L'individu meurt pour l'espèce. Il y a comme une force d'immolation de l'individu pour l'espèce. Alors, comprenez bien cette chose très curieuse. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la fécondité permet la continuité de l'espèce. Et ça, c'est le bien-être de la famille qui continue l'espèce. L'individu comme tel risque toujours de ne pas pouvoir réaliser en plénitude sa source de fécondité. D'où le besoin de l'autre. Et ceci se retrouve jusque dans l'ordre spirituel. Oui. Et c'est, je crois, le bienfait de la famille religieuse qui permet qu'une œuvre, qu'un individu porte, une œuvre divine, apostolique, soit pris en charge par la communauté. Ce qui n'existe pas en dehors de la vie religieuse. Oui, là il y a quelque chose qui est très très important à comprendre. Parce que la vie religieuse, c'est pour la fécondité spirituelle. C'est pour que cette fécondité spirituelle continue. Qu'il s'agisse de la contemplation, qu'il s'agisse d'une œuvre. Continuité, oui, de la contemplation, qui est l'œuvre par excellence, qui est plus qu'une œuvre. Étant donné la fragilité de l'homme, étant donné la fragilité de l'individu, il faut que ce soit pris au nom de l'espèce. Alors, au nom de l'espèce, au plan surnaturel, c'est quoi? C'est le corps mystique. Et donc, au nom de la tête, au nom du Christ. Et à ce moment-là, l'individu accepte la pauvreté pour que ce soit d'autres qui continuent l'œuvre. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus, parce que ça fait partie, justement, je crois, de ce dépassement de la fécondité par rapport à l'individu. L'individu est toujours dépassé par la fécondité. Il y a un dépassement qui est comme l'appel à quelque chose d'éternel. Je vous dis, les anciens avaient très fort ce sens-là. Nous l'avons moins parce que nous sommes moins spirituels et que nous croyons que l'individu peut tout faire. L'individu ne peut pas tout faire. Et plus on touche quelque chose de parfait, fécond, plus on voit l'importance que l'individu ne soit pas seul et qu'il puisse avoir cette humilité de coopérer avec un autre et de coopérer de cette manière telle qu'il puisse donner à l'autre tout son génie, tout ce qu'il possède, toute sa richesse, tous ses secrets. c'est le mystère de la maternité divine de Marie par rapport à Jésus. Jésus n'avait pas besoin de Marie pour communiquer ses secrets. Il l'a voulu pour que nous comprenions mieux comment l'individu doit s'effacer devant le corps mystique, devant l'Église, devant la communauté. Et dans l'Église, la communauté n'est parfaite qu'au niveau religieux et au niveau contemplatif. Et tout cela est commandé par ce grand mystère de la fécondité, si on essaie de le comprendre dans